Chapitre 3, troisième partie. Lundi 15 octobre. Départ de Tientsin en chemin de fer à 8 heures du matin. Une heure de route, à travers la même plaine toujours, la même désolation, le même vent cinglant, la poussière. Et puis ce sont les ruines calcinées de Yangsun où le train s'arrête parce qu'il n'y a plus de voie. À partir de ce point, les boxers ont tout détruit. Les ponts sont coupés, les gares brûlées et les rails semés au hasard dans la campagne. Ma jonque est là, m'attendant au bord du fleuve. Et à présent, il va falloir pour 3 jours au moins s'arranger une existence de lacustre dans le sarcophage qui est la chambre de l'étrange bateau, sous le toit de natte qui laisse voir le ciel par 1000 trous et qui, cette nuit, laissera la gelée blanche engourdir notre sommeil. Mais c'est si petit cette chambre où je devrais habiter, manger, dormir, en promiscuité complète avec mes compagnons français, que je congédie l'un des soldats. Jamais nous ne pourrions tenir là-dedans 4 ensemble. Les Chinois de mon équipage, dépenaillés, sordides, figures niaises et féroces, m'accueillent avec de grands saluts. L'un prend le gouvernail, les autres sautent sur la berge, vont s'atteler au bout d'une longue amarre fixée au mât de la jonque, et nous partons à la cordelle, remontant le courant du Peiho, l'eau lourde et empoisonnée, où çà et là, parmi les roseaux des bords, ballonnent des ventres de cadavres. Il s'appelle Renaud, celui des 2 soldats que j'ai gardés, et il m'apprend qu'il est un paysan du Calvados. Les voilà donc, mon serviteur Haussmann et lui, rivalisant de bon vouloir et de gaieté, d'ingénieuses et comiques petites inventions pour accommoder notre logis d'aventure, l'un et l'autre du reste dans la joie d'aller à Pékin. Le voyage, malgré les ambiances lugubres, commence au bruit de leur bon rire d'enfant. Et c'est en pleine lumière matinale ce départ, au rayonnement d'un soleil trompeur qui joue l'été quand la bise est glacée. Les 7 nations alliées ont établi des postes militaires, de distance en distance, le long du Peiho, pour assurer leur communication par la voie du fleuve entre Pékin et le golfe du Pechili, où leurs navires arrivent. Et vers 11 heures, j'arrête ma jonque devant un grand fort chinois sur lequel flotte le pavillon de France. C'est un de nos gîtes d'étape, occupé par des zouaves. Nous y descendons pour y toucher nos vivres de campagne. 2 jours de pain, de vin, de conserve, de sucre et de thé. Nous ne recevrons plus rien maintenant jusqu'à Tongcheou, ville de la pureté céleste, où nous arriverons après-demain soir, si rien de fâcheux ne nous entrave. Ensuite, le halage de la jonque recommence, lent et monotone, entre les tristes berges dévastées. Le paysage autour de nous demeure immuablement pareil. Des 2 bords se succèdent à perte de vue des champs de sorgho, qui sont des espèces de millet géants, beaucoup plus hauts que nos maïs. La guerre n'a pas permis qu'ils fussent moissonnés en leur saison, et la gelée les a roussis sur place. Le petit chemin de halage, étroit sur la terre grisâtre, s'en va toujours de même, au ras de l'eau fétide et froide, au pied des éternels sorgots desséchés qui se dressent le long du fleuve en rideaux sans fin. Parfois, un fantôme de village apparaît à l'horizon plat, ruines et cadavres si l'on s'approche. J'ai sur ma jonque un fauteuil de mandarin, pour trôner au soleil splendide quand la bise ne cingle pas trop fort. Le plus souvent, je préfère aller marcher sur la berge, faire des kilomètres en compagnie de nos haleurs qui vont toujours leurs pas de bêtes de somme, courbés vers le sol et la cordelle passée à l'épaule. Haussmann et Renaud me suivent, l'œil au guet, et dans ce vent de nord qui souffle toujours, nous marchons sur la piste de terre grise, resserrés entre la bordure ininterrompue des sorgots et le fleuve, obligés parfois à un brusque écart pour quelques cadavres sournois qui nous guettent, la jambe tendue en travers du chemin. Les événements de la journée sont des rencontres de jonques qui descendent le fleuve et croisent la nôtre. Elles s'en vont en longue file, amarrées ensemble, portant le pavillon de quelqu'une des nations alliées et ramenant des malades, des blessés, du butin de guerre. Les plus nombreuses et les plus chargées de troupes valides sont les Russes, car nos amis en ce moment évacuent leur position d'ici pour concentrer sur la Mandchourie leur effort. Au crépuscule, passé devant les ruines d'un village où des Russes s'installent en campement pour la nuit. D'une maison abandonnée, ils déménagent des meubles sculptés, les brisent et y mettent le feu. En nous éloignant, nous voyons la flamme monter en gerbe haute et gagner les sorgots voisins. Longtemps elle jette une lueur d'incendie, derrière nous, au milieu des grisailles mornes et vides du lointain. Elle est sinistre, cette première tombée de nuit sur notre jonque, dans la solitude si étrangère où nous nous enfonçons d'heure en heure plus avant. Tant d'ombre autour de nous, et tant de morts parmi ces herbages. Dans le noir confus et infini, rien que des ambiances hostiles ou macabres, et ce froid qui augmente avec l'obscurité, et ce silence. L'impression mélancolique cependant s'évanouit au souper, quand s'allume notre lanterne chinoise, éclairant le sarcophage que nous avons fermé le mieux possible au vent de la nuit. J'ai invité à ma table mes deux compagnons de route, à ma très comique petite table qu'eux-mêmes ont fabriquée, d'un aviron cassé et d'une vieille planche. Le pain de munitions nous paraît exquis après la longue marche sur la rive. Nous avons pour nous réchauffer le thé bouillant que nous prépare le jeune Toum à la fumée sur un feu de sorgho. Et voici que, la faim assouvie, les cigarettes turques épandant leurs petits nuages charmeurs, on a presque un sentiment de chez soi et de confortable dans ce gîte de rien, enveloppé de vastes ténèbres. Puis vient l'heure de dormir, tandis que la jonque chemine toujours et que nos haleurs continuent leur marche courbée, frôlant les sorgots pleins de surprises dans le sentier noir. Toum, bien qu'il soit un Chinois élégant, ira nicher avec les autres de sa race, à fond de cale, dans la paille. Et nous, tout habillés, bien entendu, tout beauté et les armes à portée de la main, nous nous étendons sur l'étroit lit de camp de la chambre, regardant les étoiles qui, sitôt le fanal éteint, apparaissent entre les mailles de notre toit de natte, très scintillantes dans le ciel de gelée. Coup de fusil de temps à autre à l'extrême lointain, drame nocturne auquel vraisemblablement nous ne serons pas mêlés. Et deux alertes avant minuit pour un poste de Japonais et un poste d'Allemand qui veulent arrêter la jonque. Il faut se lever, parlementer et à la lueur du fanal rallumé en hâte, montrer le pavillon français et les galons de mes manches. À minuit enfin, nos Chinois amarrent notre bateau, en un lieu qu'ils disent sûr, pour aller se coucher aussi. Et nous nous endormons tous, d'un profond sommeil, dans la nuit glaciale.